Bonjour Caroline.
Bonjour.
Alors, vous êtes venue aujourd'hui à Radio Campus Tours pour nous parler d'un mouvement qui peut-être est passé inaperçu auprès de nos auditeurs, étudiants et lycéens. Il s'agit du mouvement des stylos rouges. Alors, qui sont les stylos rouges ?
Donc, bonjour. Donc, les stylos rouges, c'est un groupe d'enseignants du premier degré, du second degré, qui se sont regroupés afin de mettre en avant leurs revendications et leurs mécontentements concernant le système éducatif actuel. Alors, ils sont dans la mouvance suite à ce groupe hashtag qui s'appelait Pas de vague, qui a été un peu le déclencheur de la création de ce groupe, afin que les enseignants déjà puissent parler de leurs difficultés, de leurs espoirs ensemble, et puis pouvoir faire connaître au grand public quels sont les problèmes rencontrés et quelles sont les solutions que nous proposons afin d'améliorer les choses.
Alors, c'était quoi ce hashtag Pas de vague ?
Alors, c'est un mouvement qui s'est développé au mois de novembre, en fait, suite à l'agression d'une enseignante dans sa classe. Un élève de lycée a pointé le canon d'un pistolet contre sa tempe, et ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. Ça a créé à l'époque beaucoup d'indignation, et suite à ça, il y a ce mouvement Pas de vague qui s'était développé un petit peu dans la suite Balance ton porc. Donc, ces mouvements qui sont des citoyens qui en ont marre. De ne rien dire et qui souhaitent s'exprimer pour faire changer les choses.
Voilà, donc là, cette occasion, on avait pu trouver sur les réseaux sociaux un florilège, en fait, de situations dénoncées par des enseignants, par des professeurs, sur lesquelles on, en tout cas, leur supérieur hiérarchique leur avait demandé de rester discret.
Oui, en fait, si vous voulez, quand les enseignants, pour la plupart, se retrouvent confrontés à des situations de souffrance, parce que quand vous êtes agressé verbalement ou physiquement par un élève, c'est bien évidemment une difficulté personnelle, psychologique, et qui peut avoir aussi des répercussions sur la famille. Et souvent, les enseignants ont ce sentiment de ne pas être suffisamment soutenus par la hiérarchie, à commencer par les chefs d'établissement, mais également les inspecteurs qui sont logiquement nos interlocuteurs pour nous aider dans notre mission d'enseignement. Donc les professeurs souvent se retrouvent démunis face à des situations, se retrouvent à porter plainte seuls alors que logiquement c'est tout de même la hiérarchie selon l'article 11 de nos statuts qui est censé nous protéger. Et donc comme ces situations se multiplient, se développent malheureusement, eh bien les enseignants se trouvent seuls, se sentent seuls en tout cas, et cherchent de l'appui en discutant entre eux et également auprès des syndicats. Mais c'est vrai que ces groupes de parole, à la base, font beaucoup de bien aux gens. Et ensuite, quand on a eu ce constat des difficultés au quotidien, les gens, bien évidemment, ont des solutions à apporter à ces situations-là. Donc en débattent, en discutent entre eux et proposent des choses.
Avez-vous des exemples de situations justement qui auraient pu être passées sous silence ou justement dénoncées par ce hashtag Pas de vague ?
Alors, sur le hashtag Pas de vague, non, parce que moi, je ne l'ai pas suivi pour la simple raison, c'est que j'ai pas Twitter. Donc, je ne pourrais pas vous parler de ce qui s'est dit sur ça. En revanche, sur les stylos rouges, nous avons bien évidemment de nombreux cas qui sont évoqués assez régulièrement.
C'est quoi, par exemple ? Ça peut être quelle situation ?
Et bah, par exemple, c'est un professeur qui est insulté. Ça a été mon cas il y a 2 ans et demi. Des insultes sur des tables. On en réfère à sa hiérarchie. La hiérarchie dit que, effectivement, on doit porter plainte. Vous portez plainte sans porter plainte contre des personnes parce que vous ne savez pas qui c'est. Vous émettez des suppositions parce qu'on vous le demande expressément. Et puis au retour, vous vous retrouvez avec des plaintes des parents qui sont mécontents parce que leurs enfants ont été convoqués par la gendarmerie. C'est un cas qui est fréquent et malheureusement avec ce type de conséquences.
Alors pourquoi, de votre point de vue et du point de vue donc, du collectif des stylos rouges, pourquoi la hiérarchie resterait silencieuse à ce point ?
Mais parce qu'on n'a pas intérêt à dire que les choses vont mal. Il faut savoir qu'un chef d'établissement, il a sa mutation en fonction de son ancienneté. Et plus il va avancer dans l'expérience de son métier, plus il va demander des postes à responsabilité. Or, les salaires sont en fonction du degré de responsabilité. Vous ne touchez pas les mêmes revenus si vous êtes proviseur d'un gros lycée que si vous êtes juste principal adjoint d'un petit collège de campagne ou de banlieue. Donc évidemment, tout leur intérêt, c'est de ne pas se retrouver confrontés à ce genre de situation, parce que c'est pas bon pour leur image. Et puis souvent aussi, ils ne savent pas forcément comment réagir, parce que la violence et les difficultés se développant à vitesse grand V depuis quelques années, ils n'ont pas forcément eu la formation peut-être pour ça. Enfin, je ne sais pas, je ne le suis pas, hein, mais j'essaye d'imaginer. Et c'est difficile aussi pour eux, parce qu'ils doivent concilier à la fois la relation qu'ils ont aux parents et à la fois la relation qu'ils ont aux enseignants.
Alors pourquoi ces violences tendent à se développer ?
Eh bien, à mon sens, la première des raisons, c'est une éducation qui a évolué au fil des dernières décennies et où on ne perçoit pas l'éducation d'un jeune de la même manière qu'à 40 ans. Le fait que les familles aient de moins en moins d'enfants, ces enfants sont portés sur un piédestal et sous prétexte que l'on veuille leur faire le plus plaisir possible, on en oublie parfois les vraies valeurs, mot tabou, si j'ose dire, les vraies valeurs de ce que c'est le respect, l'écoute, l'attention et l'humilité également. Vous avez des élèves qui vous tiennent tête en cours de façon assez impressionnante parce qu'ils estiment être l'égal de l'adulte. Je pense que pour moi, c'est ça le nœud du problème, le fait qu'il n'y ait plus de hiérarchie entre l'enseignant et les élèves.
Donc, de votre point de vue, la hiérarchie, c'est pas quelque chose de négatif ?
Ah non, pas du tout. Un enfant, il a besoin de structures pour se former, pour avancer, pour grandir, pour évoluer, pour se construire. Une éducation, c'est de la contrainte. Il n'y a pas d'éducation sans contrainte. Sauf que on a un petit peu oublié ce problème-là depuis quelques décennies. Et malheureusement, on en voit les conséquences. Mais je pense que les enseignants ne sont pas d'ailleurs les seuls à être touchés par ça. Il y a également les pompiers qui sont régulièrement agressés quand ils interviennent dans certaines cités, les personnels de santé également qui ne sont pas toujours dans des situations très faciles avec leurs patients.
Vers quoi on va alors dans une société qui, comme vous la décrivez, en fait, n'aurait pas de rapport sain à la hiérarchie ?
Eh bien, malheureusement, je pense qu'on ne peut aller que vers une crise. Une crise qui nécessairement remettra en cause un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on aura au final ? Je ne suis pas devin, je ne peux pas vous le dire. Mais je pense que les mouvements de contestation actuels dans bon nombre de secteurs sont un signe que le système actuel ne fonctionne pas, qu'il faut le revoir, qu'il faut le modifier, et qu'il faut peut-être certainement remettre en place un certain nombre de valeurs et de hiérarchies.
Alors, d'un côté, il y a toutes ces agressions hein, qui sont recensées sur les sites tenus par des professeurs. Et en même temps, c'est vrai qu'on peut voir des lycéens qui se mobilisent, par exemple, pour l'environnement. Alors, ça semble curieux de se dire qu'à la fois, la même classe d'âge peut être dans le manque de respect, dans l'agression, et en même temps, comment dire, se battre pour un avenir plus serein et où chacun trouverait une place différente.
Je pense que les jeunes ne sont pas apolitisés comme on veut souvent nous le faire croire. Je pense que la manière de militer et de se révolter des jeunes n'est plus la même qu'avant. Avant, on passait par des syndicats, on passait par des groupes politiques. Les jeunes sont beaucoup plus indépendants par rapport à ça, mais c'est mon sentiment personnel. J'ai l'impression qu'ils se reposent beaucoup aussi sur les réseaux sociaux et que leur manière de contester est beaucoup plus spontanée qu'avant, peut-être plus moins organisé, mais en tout cas avec une volonté chez certains très forte de faire changer les choses. Mais on peut, je pense, être en révolte contre un système éducatif et pour autant ne pas être actif et se sentir concerné par d'autres questions. Je pense qu'il y a un mal-être aussi chez les jeunes qui manquent de repères, qui sont bien conscients que la planète qu'on leur laisse est loin d'être à la hauteur de leurs attentes et de ce que l'on aurait pu espérer pour eux. Donc c'est clair que ça peut créer aussi des situations de révolte, d'énervement, de contestation de ceux qui peuvent représenter ça, à savoir, entre autres, les enseignants.
Mais est-ce que ça peut être les mêmes jeunes qui se montrent irrespectueux dans un contexte scolaire et qui défilent dans la rue pour demander plus de justice sociale, plus comment dire, une protection de l'environnement ou des choses comme ça? Est-ce que ça peut être les mêmes jeunes ou est-ce que c'est pas les mêmes justement?
Peut-être. Là, j'ai pas d'éléments de réponse dans la mesure où, voilà, je suis pas, j'ai pas de chiffres, j'ai pas de rapport, j'ai pas d'études sur le sujet. Je n'ai que mon ressenti d'enseignante. Moi, enseignant dans un petit collège de campagne, évidemment, les jeunes sont beaucoup moins impliqués dans les manifestations parce que de toute façon, les manifestations, elles sont loin de chez eux et donc ils ne pourront pas y aller. Donc, j'ai pas d'éléments de recul par rapport à ça.
Alors, à qui ça profite ces tensions dans les établissements d'éducation nationale ?
Non, mais ça ne profite à personne. C'est bien le problème. C'est bien pour ça que les stylos rouges existent. C'est que ce système n'est ni bon pour les élèves, ni bon pour les enseignants, ni bon pour les parents, et qu'on ne peut pas avancer avec un système ainsi. Les enseignants sont très mal perçus par l'ensemble de la société. Vous savez, il y a un siècle, quand vous étiez l'instituteur du village, vous étiez une sommité et on vous étiez respecté, et quand on vous écrivait, c'était monsieur l'instituteur ou madame l'institutrice, et il n'y avait même pas besoin de mettre le nom, l'adresse, on savait qui c'était. Et pour les élèves, pour les enfants, pour les parents, un enseignant, c'était une référence. C'était celui qui avait réussi, c'était celui qui détenait le savoir, et donc c'était celui à écouter, c'était celui à suivre. Ces personnes-là n'ont plus cette aura. Ils n'ont plus cette aura pour différentes raisons, et c'est ce manque de respect qui fait que, ma foi, à l'école, on l'entend souvent, hein. Vous avez des fois des chefs d'entreprise, des auto-entrepreneurs qui vous disent « Moi, si j'ai réussi, c'est pas grâce à l'école, je me suis fait tout seul, etc. » Donc on a un peu l'impression que finalement, on n'a plus ce côté un peu magique qu'on pouvait apporter aux enfants jadis en leur disant « Mais voilà, écoute-moi, regarde, je vais t'apprendre des choses, ces choses t'aideront à réussir dans la vie. » Et finalement, c'est le but de tout enseignant, c'est de faire avancer ses élèves, les faire grandir émotionnellement, intellectuellement, culturellement. Et on a l'impression de ne plus être aussi utile à la société, et ce sentiment est très difficile à vivre.
C'est difficile à vivre, peut-être que c'est pas qu'on vous accuse de faire mentir une promesse sociale, mais peut-être aussi quand même de se dire finalement qu'il n'y a pas tant d'ascenseur social que ça, que c'est un doux rêve d'espérer s'en sortir par l'école. Et est-ce que c'est pas ça qu'on vous ferait payer aux enseignants ?
Les enseignants ne font qu'appliquer des textes. Les enseignants ne font qu'appliquer des réformes qui leur sont imposées. On leur donne très rarement leur avis. Ça change très régulièrement, ça aussi c'est une lourde difficulté. On nous demande pas notre avis sur ça. On nous dit vous allez faire ça, point, vous êtes fonctionnaire, vous devez appliquer. L'article 1 de la loi Blanquer est tout à fait édifiant à ce sujet. On nous rappelle bien clairement que nous devons respecter l'autorité et la hiérarchie du ministère, que comme des enfants finalement on doit appliquer ce qu'on nous demande de faire, et que surtout qu'on n'aille pas se plaindre en dehors parce qu'on est passible de justice. Donc nous, face à ça, que pouvons-nous faire ? Sinon, le témoigner dans ce type d'émission à la télé ou à la radio ou dans la presse. Mais si vous voulez, nous n'avons pas prise sur ce que l'on nous demande d'apporter aux élèves.
Alors là, vous venez de rappeler qu'il y avait quand même une hiérarchie importante au sein de l'éducation nationale, et ça semble paradoxal puisque vous dites aussi que cette hiérarchie, elle disparaît dans le rapport entre le professeur et les élèves. Pourquoi ?
Mais si vous voulez, qu'il y ait une hiérarchie entre adultes et adolescents, cela me semble normal. Une hiérarchie entre adultes et adultes, oui, elle est nécessaire pour que le système fonctionne. Mais on oublie quand même que nous sommes entre adultes, qu'il y a aussi un rapport horizontal et non vertical, et que les personnes qui sont au contact des jeunes, des adolescents et des enfants, ce sont quand même bien les enseignants, et ce sont quand même bien eux qui sont à même d'évaluer la situation et de savoir quelles sont les réponses à apporter pour que le système fonctionne mieux. Et on a le sentiment que notre expérience, notre professionnalisme de terrain n'est pas du tout entendu.
Est-ce qu'il vous semble parfois que vous êtes, que finalement, puisqu'il n'y a pas ce rapport hiérarchique dans les classes, est-ce qu'il vous semble que que les jeunes et les parents se considèrent comme des clients, en fait, comme clients de l'éducation nationale ?
Oui, c'est ça, c'est du clientélisme, nous sommes à leur service, nous devons faire pour certains. Alors je ne généralise pas non plus, parce que Dieu merci, il y a tout un tas de parents fantastiques, d'élèves admirables, avec qui on passe des moments absolument merveilleux, mais effectivement il y a de plus en plus cette notion que de toute façon on est au service de l'État, on est donc au service des élèves, on est donc au service des parents, et qu'on doit se soumettre aux desiderata. Vous savez, il y a des parents qui viennent vous voir et qui vous disent comment vous devez enseigner. Alors, effectivement, des fois, d'échanger là-dessus peut être riche et intéressant et nous faire évoluer chacun dans nos représentations du monde de l'éducation. Mais enfin, les professionnels, c'est quand même nous. C'est comme si moi, j'allais dire à un parent que la couleur de la brosse à dents de sa fille ne me semble pas adéquate. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ça frise parfois l'absurde.
Pourtant, il y a certaines personnes qui appellent de leur vœu une éducation où les parents ont un rôle différent. que c'est possible.
Mais les parents ont un rôle, à mon sens, d'éducateur. Nous avons un rôle d'enseignement. Les deux se complètent, et quand l'éducation d'un enfant est faite, l'enseignant alors peut intervenir et faire passer son enseignement. Mais quand vous avez des élèves qui ne savent pas tenir sur une chaise, quand vous avez des élèves qui ne savent pas les mots, ce que j'appelle les mots magiques dans ma classe, c'est-à-dire « s'il vous plaît, merci, excusez-moi, madame, monsieur, etc. », vous vous retrouvez à faire ça, parfois avec des élèves qui sont en quatrième, en troisième. Quelle place reste-t-il pour l'enseignement ? Pas beaucoup, parfois pas beaucoup. Alors une fois de plus, je généralise pas, hein, parce que malheureusement, tout n'est pas noir, hein, mais... ces phénomènes-là sont de plus en plus récurrents et inquiètent un bon nombre d'observateurs.
Ça veut dire que si le temps d'enseignement se réduit comme peau de chagrin pour faire des cours de, on va pas dire de bonne manière, mais de savoir vivre en société, ça veut dire qu'on perd du temps de réflexion.
On perd du temps, vous l'avez dit. On perd du temps, on perd de l'efficacité, on perd du résultat.
Mais donc ça veut dire que concrètement, sur le même temps, disons 3 ans, admettons, pour aller jusqu'au bac, si on perd déjà, mettons, 6 mois, pas pour tous les élèves, mais en tout cas pour une catégorie d'élèves à apprendre à se comporter en cours, ça veut dire qu'on va quand même pousser ces jeunes-là vers le bac. Donc comment on fait ? Il n'y a pas de recette miracle.
Bah écoutez, il y a des politiciens qui ont décidé dans les années 80-90... que 80% d'une classe d'âge devait aller au bac. Donc, dans ma réponse, vous avez tout de résumé. Il faut que les élèves réussissent. C'est ce que vous répètent en permanence les inspecteurs. Tous les élèves doivent réussir. Ce sont des réussites que l'on favorise en adaptant le système.
C'est-à-dire, en adaptant le système ?
Eh bien, par exemple, quand les jurys se réunissent pour l'attribution du baccalauréat, il y a des commissions qui s'appellent d'harmonisation des notes et qui décident si on va modifier les barèmes pour que les notes soient meilleures et que les plus d'élèves aient le bac. Mais ça fait des années et des années que c'est quelque chose qui se pratique. Alors les gens en ont pris conscience là au mois de juin et juillet, parce qu'il y a eu de la part notamment des stylos rouges la rétention des copies de baccalauréat. Donc là, il y a eu tout d'un coup un affolement des parents et des médias qui ont découvert ce type de pratique, mais c'est ancien.
Alors ça a été assez impopulaire quand même, cette rétention des copies d'examen. On a pu entendre que les professeurs, enfin certains professeurs, prenaient en otage les élèves.
Alors, la réponse est très claire. Monsieur Blanquer était au courant depuis le mois d'avril que nous avions déposé un préavis de grève par le biais de certains syndicats concernant ce baccalauréat. Il a été reçu deux fois, les stylos rouges ont été reçus deux fois au ministère, en nous disant que oui, on comprenait que nos salaires soient pas suffisants, mais que c'était pas possible maintenant, que ça se ferait début juillet, mais il fallait voir avec le ministère des Finances, etc., etc. Donc, s'il y a bien une personne, à mon sens, qui a pris en otage les élèves, ce ne sont pas les enseignants qui se sont retrouvés à devoir avoir ce type d'action, bien, bien malheureusement, parce que vous pensez bien que quand vous passez une année, deux années, trois années à préparer vos élèves à la réussite d'un baccalauréat, retenir des copies, c'est pas quelque chose que vous faites de gaieté de cœur. Mais quand on n'a plus aucun moyen de se faire entendre, malheureusement, il n'y a plus que ça. Alors vous disiez tout à l'heure que c'était une méthode impopulaire. Moi, je n'ai pas toujours eu ce sentiment. Il faut savoir qu'il y a des syndicats lycéens qui ont appelé à ces grèves. Il faut savoir qu'il y a des syndicats universitaires. Il faut savoir qu'il y a aussi bon nombre de parents qui nous ont rejoints au fil des mois dans le combat que nous menons pour une revalorisation du système éducatif. Et les médias ont peut-être, parfois certains médias, donné l'image que c'était impopulaire, mais je peux vous dire que ça ne l'a pas toujours été.
Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi vous étiez opposé à la réforme Blanquer ?
Alors là, c'est long. Eh bien, parce que la réforme Blanquer, elle, entre autres, par rapport en ce qui concerne la réforme des lycées, la réforme Blanquer, elle ne permet pas une égalité des chances pour tous. Concrètement, c'est des histoires d'options que vous choisissez, mais pour certaines options, par exemple, vous n'en avez pas dans le lycée de secteur. Donc vous faites une demande, une dérogation par document officiel pour avoir l'obtention de ce lycée parce qu'il y a l'option que vous souhaitez. Sauf que comme priorité est donnée aux personnes du secteur, eh bien vous vous retrouvez sur des listes d'attente et finalement bah, l'option que vous vouliez parce que vous avez l'intention, une intention particulière d'un métier futur, eh bien vous ne l'avez pas. Donc vous allez finalement dans votre lycée de secteur qui n'est pas forcément aussi bien doté que des lycées de grandes villes par exemple. Et donc bah, on reste entre nous, quoi. Ceux des campagnes restent à la campagne, ceux des villes restent à la ville. Je trouve que c'est assez inégalitaire parce que c'est pas parce que vous habitez la campagne que vous n'avez pas envie de faire théâtre ou audiovisuel ou je ne sais quoi d'autre, et que voilà, et vous pouvez aussi être à la ville et ne pas avoir envie de faire ça. Donc il faut tenir compte quand même des choix de vie, de carrière et de profession des élèves, quoi. Ils se préparent à un métier plus tard, certains n'ont pas d'idée, mais certains commencent déjà à avoir des pistes dans leur tête. Notre rôle à l'éducation nationale, c'est de les pousser, de les encourager, de les accompagner. Donc ça déjà, c'est un gros problème. Ça a beaucoup grogné dans les lycées, parce qu'effectivement, il y a aussi, par exemple, les mathématiques, qui deviennent une option. Comment peut-on imaginer un système où les mathématiques sont une option ? Parce que c'est difficile, parce qu'on a du mal avec les maths, et alors ? C'est pas parce que quelque chose est difficile qu'on doit y renoncer. Et puis, il y avait aussi l'aspect de l'article 1 qui, donc, nous empêche de dire ce que l'on pense, de dire ce que l'on voit sur le terrain. Et c'est assez inquiétant de ne pas avoir cette liberté d'expression. Les enseignants, quand même, s'ils n'ont pas la liberté de penser, à quoi servent-ils ?
Alors, je lis sur le site stylorougeofficiel.fr « Appel à la grève ». Parce que, ensemble, nous avons rédigé un manifeste. Parce que, ensemble, nous avons interpellé calmement sur nos conditions salariales, nos conditions de travail, sur les dangers de la réforme des lycées et de la loi pour une école de la confiance. Parce que les lettres ouvertes envoyées il y a des mois n'ont eu pour seule réponse que les gaz et les interpellations. Parce que nos représentants ont été reçus par un ministère qui n'a fait qu'essayer de gagner du temps afin d'éviter la perturbation des examens. Parce que notre ultimatum faisant peser une menace sur les examens n'a pas été entendu. Parce que la grève des examens est désormais la seule chose qui fera réellement basculer la situation. Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, nous, Stylo Rouge, appelons tous les personnels de l'éducation, qu'ils soient Stylo Rouge ou non syndiqués, à se mobiliser pour la grève des examens. Qu'est-ce que vous voulez dire sur cet appel à la grève ?
Eh bien écoutez, il est très clair, il souligne en effet beaucoup de problèmes qui ne sont pas récents, qui sont anciens, que le ministère ne veut pas voir. Nous avons trois revendications au Stylo Rouge. Alors je rappelle aussi que les Stylos Rouges, c'est un mouvement qui regroupe toutes les bonnes volontés, que l'on soit ou non syndiqué, et les points de cohésion avec les syndicats sont nombreux. Nous avons travaillé souvent avec les syndicats et il n'y a vraiment pas d'opposition entre les deux. Je pense que les deux mouvements coexistent et sont nécessaires l'un à l'autre. Les trois axes de revendication que nous avons, c'est d'abord une revalorisation salariale, à hauteur de notre temps de travail réel, ainsi que le dégel du point d'indice. Il faut savoir que ce point d'indice, il est bloqué depuis 10 ans. Il faut savoir, depuis 2010, donc quasiment 10 ans, il faut savoir que nous avons perdu en 10 ans 20% de pouvoir d'achat. Il faut savoir aussi que nous sommes des enseignants, des fonctionnaires de catégorie A, et que nous sommes payés entre 30 à 40% moins cher que les fonctionnaires catégorie A des autres ministères. Je connais quelqu'un, moi, qui est dans un ministère. Il est catégorie B, il gagne 3 500 nets par mois. Ça me laisse rêveuse et songeuse. Donc ce que l'on veut, nous, c'est une revendication salariale, une revalorisation rapide, urgente, parce qu'il y a chez les enseignants une paupérisation galopante au quotidien. On veut aussi une bienveillance de l'État à l'égard des élèves. On a des annonces qui sont faites, qui font croire au public que tout va être merveilleux, que grâce aux réformes, tout va s'arranger. Il faut savoir que j'ai des collègues qui, à la rentrée, auront 32 élèves par classe. Il faut savoir qu'il y a des collègues qui, en CP, enseignent à des classes à 25, 27, 28, 29, l'apprentissage de la langue française. Comment peut-on travailler dans des conditions comme ça ? Et comment peut-on imaginer qu'on va réussir alors que le public que nous avons n'est plus du tout le même qu'il y a 50 ans? Et que ça, il faut vraiment en prendre conscience et en prendre, acte pour faire évoluer les choses. Bien évidemment, on demande qu'il y ait moins d'élèves par classe, surtout dans les zones défavorisées. Et bien évidemment, nous demandons que les difficultés des élèves particuliers soient prises en considération. de moins en moins d'aides dans les classes. Dans les primaires, les aides vont ne plus s'occuper que d'un seul élève, mais de plusieurs élèves. On fait un branle-bas combat pour l'intégration des élèves en handicap dans les classes, mais derrière, il n'y a pas les moyens. Donc, il y a les annonces officielles qui nous font croire que tout va bien. Et puis, nous, en contact du terrain, on se rend compte que, eh bien, non, ces avantages-là, on ne les a pas forcément et que les difficultés perdurent et s'aggravent. Et puis on aimerait une bienveillance de l'État aussi envers les élèves, parce que je ne pense pas que ce soit respectueux de faire des réformes qui ne tiennent pas compte de leurs difficultés, qui ne tiennent pas compte de leurs attentes et qui ne tiennent pas compte non plus des possibilités pour leur réussite. Et puis enfin, la protection des enseignants qui nous semble totalement évidente. Dans notre travail, peut-on accepter quand on est fonctionnaire d'être insulté? Peut-on, quand on est fonctionnaire, accepter d'avoir des dégradations sur son véhicule? Peut-on accepter d'être stigmatisé aussi nous faisant passer pour des gens qui ne travaillons pas beaucoup, qui avons plein de temps? Combien de fois j'ai entendu « Ah ouais, mais toi tu termines à 17h » alors. Ces personnes-là, j'aimerais d'abord leur rappeler quelque chose. Quand ils voient un spectacle, qu'ils voient un chanteur ou un acteur de théâtre, est-ce qu'ils leur disent « Ah ben oui, vous faites que 3 représentations dans la semaine de 3 heures, vous travaillez que 9 heures ». Non, parce qu'en amont, il y a tout un travail de préparation pour que ce spectacle puisse se faire. Ben nous, quand on est dans nos classes, on est un peu en spectacle, on est un peu en représentation. Et cette heure de cours que l'on fait, elle a nécessité en amont du temps de préparation. Elle va nécessiter après du temps d'évaluation, et je ne parle même pas des nombreuses réunions que l'on peut avoir, des journées de formation, etc. Formation qui d'ailleurs voudrait se faire passer maintenant sur nos temps de vacances.
Bon, voilà beaucoup de raisons d'être en colère, semble-t-il. Qu'est-ce que vous leur répondez, à part cette métaphore sur le spectacle, aux parents en fait, qui peut-être mettent en cause... vos savoirs, parce que il y a aussi je pense plutôt aux enseignants en école primaire, parce que il y a un changement aussi de diplôme. Maintenant on a des gens qui peut-être ne se destinaient pas à l'enseignement, arrivent dans des études post-bac à un bac plus 5 et finalement se tournent vers l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a un souci aussi peut-être dans les jeunes générations d'enseignants de disparition d'une vocation?
Alors pour qu'il y ait des vocations, il faut que ce soit attrayant. Certes, il y a le plaisir d'enseigner, mais je connais personne qui dirigerait une entreprise du CAC 40 pour 1000 euros par mois. Donc on est bien d'accord que le salaire, il contribue aussi à la reconnaissance que vous avez. Il y a 20 ans, un enseignant qui débutait sa carrière, à l'époque avec un bac plus 3, était payé 2 fois le SMIC. Maintenant, un enseignant qui commence avec un niveau ingénieur bac plus 5 commence avec 1,2 du SMIC. Comment voulez-vous trouver des candidats à un métier excessivement fatigant nerveusement, excessivement impliquant? Parce que vous savez, les vacances, oui, on en a, mais les vacances, c'est quoi? C'est vous visitez un musée, puis vous êtes en train de vous dire « Ah oui, tiens, je pourrais faire ça pour mes élèves. Ah ben, je vais prendre un bouquin, je vais l'acheter parce que je pourrais lui... » etc., etc. En fait, on a l'impression qu'on travaille tout le temps. On n'est jamais complètement coupé. Alors certes, on l'a voulu, c'est quelque chose qui nous plaît, mais on aimerait juste un petit peu que les gens autour de nous se disent « Ouais, c'est chouette le boulot que vous faites, merci pour nos enfants. » Et ça, le merci, vous ne l'avez pas souvent. C'est marrant parce que moi, j'ai commencé il y a 23 ans, je vais entamer ma 24e rentrée. Et l'année dernière, durant l'été, je disais à des collègues, ce métier, moi, il me déçoit parce que finalement, moi, quand je vais au restaurant, que le plat m'a plu, ben, si je vois la serveuse ou le cuisinier, je vais dire, oh, c'était super, merci beaucoup, c'était bon, voilà. Et je me disais, moi, dans mon métier, ben, il n'y a jamais un élève qui sort de cours ou un parent qui vient me voir. Alors, parfois, mais c'est très rare, mais en tout cas, jamais un élève qui vient me voir pour me dire, merci madame, votre cours, c'était chouette. Et puis alors, grande surprise, en septembre l'année dernière, nouvelle classe, des sixièmes, j'ai 2 élèves qui arrivent à la fin de mon premier cours et une élève me dit « Madame, merci, c'était super votre cours ». Vous vous rendez compte, il a fallu attendre 23 ans pour qu'un élève me dise ça. Et je peux vous dire que ce jour-là, ma journée, elle a été ensoleillée, mais complètement ensoleillée. Il avait suffi de ces petits mots-là, d'une petite gamine toute mignonne de sixième, pour que je me dise « Waouh, ce boulot continue parce que voilà, tu le fais pour ces élèves-là ».
Mais alors voilà, ce que vous dites aussi, c'est que c'est des métiers où il y a une forte charge émotive. On a besoin aussi du retour positif des autres,
Ah, oui, c'est bien sûr qu'il y a de l'émotion, évidemment. Quand des fois vous avez des élèves pendant des années et quand vous les voyez partir, évidemment qu'il y a une histoire qui s'écrit, évidemment. Et quand vous les recroisez des fois 10 ans, 15 ans, voire 20 ans plus tard, et vous les avez pas reconnus parce qu'ils ont grandi, ils sont adultes et qu'ils vous disent, mais madame, je vous avais. Et là, effectivement, on se dit chouette, même si des fois on a l'impression qu'on les fatigue. Non, finalement, on a quand même laissé une trace positive. Ils reviennent nous voir et ça, c'est le côté chouette du métier. Mais vous savez, ça beau être chouette, on a aussi quand même besoin d'avoir une qualité de vie en dehors de ça pour se ressourcer. Et notamment, une meilleure condition financière aide à se ressourcer. Quand j'ai débuté dans la profession, j'étais surprise. Il y avait plein de collègues qui faisaient des voyages fantastiques, qui partaient un mois au Mexique, sac à dos sur le dos, qui faisaient des croisières, des trucs. Voilà, c'est des gens qui avaient à l'époque 50 ans, donc qui avaient atteint un certain niveau dans leur carrière. Moi, ça y est, je l'ai atteint leur niveau et il n'y a pas eu de vacances l'année dernière, il n'y a pas eu de vacances cette année. Pourquoi? Parce qu'avec le salaire que j'ai, c'est quelque chose qui devient difficile.
Est-ce que c'est pas ça qui attaquait aussi ce lien éducatif, affectif fort qu'on compétissait avec des élèves?
J'ai pas compris la question, excusez-moi.
Je dis, est-ce que c'est pas ça aussi qu'on essaie de faire disparaître ce lien affectif qu'on peut tisser dans une relation éducative avec des enfants ou dans un contexte hospitalier avec des patients? Est-ce que c'est pas ça qu'on essaie de supprimer en fait?
Quand j'ai choisi ce métier, au départ, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais être photographe. Quand j'ai finalement choisi ce métier, je me suis dit, je choisis une profession qui va pas créer de l'argent. Je vais pas participer au capitalisme, même s'il y a des avantages dans le capitalisme. Enfin, on va pas débattre là-dessus, ce serait un peu plus long. Mais je m'étais dit, moi, ce que je vais produire, c'est de l'intelligence, c'est de la culture, c'est de l'éveil. Et ça me semblait quelque chose de primordial par rapport à mes convictions personnelles. Au final, ça, je l'ai de moins en moins, et on me demande effectivement de forger des élèves pour qu'ils rentrent dans un certain type de moule, et que surtout ce soit des personnes dociles à la société qu'on leur propose.
Mais c'était pas déjà le cas avant ça, de former des gens dociles qui savent obéir, rester sagement assis sur une chaise?
À ce degré où que l'on a atteint, non, je ne pense pas. Non, pas à ce degré-là. Vous savez, j'ai assisté à la première année que j'enseignais, j'étais en lycée professionnel, hors discipline, mais enfin ça c'est une autre histoire. J'assistais aux examens de BEP. Et quand j'ai vu les sujets de BEP, certains sujets, je me suis dit, mais on les prend pour des imbéciles ou quoi? En fait, les réponses, elles étaient dans les questions ou dans les documents qu'on leur donnait, mais à un point de facilité et d'évidence assez, assez impressionnant. Et je me souviens que ces élèves-là que j'avais moi, je leur donnais des sujets plutôt plus compliqués que ça, alors dans d'autres matières certes, mais en fait, quand vous les accompagnez, quand vous leur tenez la main, ils en sont tout à fait capables. J'ai entendu combien de fois, ouais, mais vous pouvez pas demander ça à des élèves, pas dans ce secteur-là, mais quel mépris pour les élèves. Qu'est-ce qui est le plus méprisant pour un élève, l'engueuler parce qu'il a oublié ses affaires ou lui dire, mais non, mon chéri, t'es pas capable, on va faire un truc plus simple. C'est quelque chose qui m'interpelle énormément, ça, la baisse du niveau des élèves. Les élèves, ils sont pas plus bêtes que je ne l'étais. Ils sont pas plus intelligents que je ne l'étais. Ils ont une ouverture au monde, à la culture via Internet, qui est largement supérieure à ce que j'ai pu connaître dans mon enfance. Ils sont pas bêtes, alors arrêtons de les prendre pour des bêtes. Et apprenons à les faire avancer en leur tenant la main et en croyant en eux. Donc c'est à la fois ça, ce dualisme, c'est de dire qu'ils peuvent tous réussir, donc on baisse le niveau, au lieu de se dire ils peuvent tous réussir avec un bon niveau. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire un système éducatif qui s'adapte au niveau des élèves, mais c'est pas quand vous avez 32, 33 élèves dans une classe que vous pouvez le faire. Ça s'appelle la pédagogie différenciée dans notre métier. On nous demande de s'adapter à chaque élève. Ça c'est possible quand vous avez une classe, que vous avez que deux classes, que vous avez que trois classes, mais je pense aux collègues d'art plastique, aux collègues de musique qui ont parfois 20 classes, 21, 22 classes, peuvent-ils s'adapter à chaque élève?
Qu'est-ce que ça donne alors des jeunes qu'on pousse d'année en année, peut-être en facilitant leur réussite, et qui se retrouvent après soit à l'université, soit dans le monde du travail, et qui peut-être prennent conscience que finalement ils n'ont pas le niveau qu'ils pensaient avoir?
Bah déjà, c'est une blessure personnelle. Je pense que se retrouver dans cette situation-là, ça doit être douloureux parce qu'on s'y attend pas. On est persuadé que on est très bon, donc voilà. Et quand on s'aperçoit que on n'est pas aussi bon que ce que le système a voulu nous le faire croire, je pense que déjà il y a une blessure personnelle. Et puis ça peut donner quoi? Bah ça peut donner des jeunes qui ne trouvent pas de travail, des jeunes qui ne réussissent pas leurs études universitaires. Et voilà. Et on gonfle les rangs du chômage. Et en plus, on se permet de dire, regardez, ils ne font rien. Mais on les a créés. Je crois que c'est le pire du cynisme de ce système. C'est de taper et de critiquer des gens qui sont au RSA, qui sont au chômage de longue durée, en les stigmatisant, parce que c'est bien plus facile de stigmatiser ça que de stigmatiser les véritables problèmes de notre société. Alors que finalement, on les a créés, ces gens-là. On les a créés de toutes pièces pour qu'on puisse taper sur eux. Moi, je trouve que c'est d'un cynisme inouï.
Est-ce qu'on a besoin d'emmener toute une génération vers l'université, par exemple ?
On a besoin d'amener toute une génération au savoir, quel qu'il soit et quel que soit le degré de réussite. Je pense qu'on doit pousser les élèves à aller au meilleur de ce qu'ils sont capables de faire. Mais vous savez, je prends souvent cet exemple-là, on est dans un système où dans une classe, vous avez des Porsche et des deux chevaux. Et on vous demande de rouler en Mégane. Alors, j'ai rien contre les Méganes, mais je peux vous garantir que la deux chevaux, elle a du mal à suivre. Et je peux vous garantir que la Porsche, elle s'ennuie.
Bon, pour en revenir au stylo rouge, voilà, comme on se le dise, non, les stylos rouges ne font pas rien pendant l'été, sous prétexte d'être en vacances. Vous préparez quand même des actions, voilà. Vous attendez
oui.
Pas la rentrée.
Bah, bien sûr que non. L'action, elle a continué tout l'été. Il y a eu des débats, des discussions, des réunions. On s'est retrouvés entre nous, entre ceux qui partent, ceux qui reviennent de vacances, ceux qui partent pas. La volonté, elle est la même. C'est pas parce que le bac est passé que les problèmes sont résolus. Nous avons toujours pas de réponse du ministère quant à la revalorisation des salaires. Alors, il était question d'un observatoire qui observera les observations observables. C'est un peu compliqué tout ça, mais ça ne nous aide pas beaucoup. Et il est clair que l'été, des actions ont continué. Donc nous avons dans l'Académie d'Orléans Tours une action prévue le jeudi 15 août à l'entrée du château de Chambord où des stylos rouges seront là pour distribuer un tract qui expliquera au plus grand nombre les raisons de notre colère. Et puis il y aura également une autre action prévue le 25 août à la Forêt des Livres à Champs-aux-Préloches, événement culturel et littéraire autour du livre donc, et on espère là avoir une écoute de personnes qui quand même sont censées s'intéresser à la culture, au savoir, au français aussi. Et donc voilà, donc on tracte pour informer les gens, pour qu'ils puissent être un peu plus au courant, parce que finalement quand je discute autour de moi je me rends compte à quel point les gens sont pas au courant des choses et c'est normal, on veut pas trop qu'ils soient au courant, donc il y a le discours officiel et il y a ce qui se passe derrière. Donc nous ce que l'on veut c'est alerter que les gens ensuite soient au courant et ensuite prennent leurs responsabilités de citoyens par rapport à l'avenir qu'ils souhaitent pour leurs enfants.
Pour finir, Caroline, à votre avis ça va barder à la rentrée?
Ben, on espère. Parce que là, on est remonté, parce que là, on est en colère, parce que là, on est fâché, parce qu'on se sent méprisé, parce qu'on se sent humilié, parce qu'on se sent non écouté. Et que, ben, vous savez, quand quelqu'un n'est pas écouté, en général, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Donc, j'ai bien peur que nous ne soyons obligés de crier au mois de septembre, bien évidemment. Certains syndicats ont déjà appelé à la grève de la rentrée. Donc là, on va en redébattre entre nous d'ici la fin du mois d'août. Et puis des décisions seront prises. Mais ce n'est pas exclu, effectivement, qu'il y ait un mouvement massif de grève à la rentrée.
Est-ce que vous pensez qu'on va mater la révolte?
Bah, écoutez, les collègues de Toulouse en ont déjà fait les frais au printemps, hein, puisque le jour où ils ont voulu bloquer l'entrée d'un rectorat pour montrer leur mécontentement, on leur envoyait les CRS et les lacrymogènes. Faut savoir aussi que certains stylos rouges font partie d'autres mouvements, que je ne nommerai pas, mais bon voilà, il y a plein de mouvements en France actuellement. Je pense aussi qu'il n'y a pas que les professeurs en colère, et qu'il y a des convergences qui vont se réaliser. Nous avons des hôpitaux en danger. Nous avons un des meilleurs systèmes de santé au monde qu'on est en train de détruire ouvertement, sciemment et consciemment. Alors qu'on a des personnels de santé totalement admirables. Je crois qu'on a tous eu un jour l'occasion d'aller dans des urgences ou dans des hôpitaux. Et on voit bien à quel point ils se dévouent corps et âme pour notre bien. Et ces gens-là sont méprisés. Quand je pense qu'on leur a refusé la prime canicule, je suis outrée. Donc, de toute façon, la colère, elle va être massive, pas simplement chez les enseignants, parce qu'il y a aussi la réforme des retraites. Le système par points qui est loin d'être satisfaisant. Et donc, je pense qu'il y aura une convergence de plein de secteurs, et notamment des fonctionnaires. Et je l'espère également du privé, parce que malheureusement, on est tous concernés par ce système de modification de la retraite et les avenirs ne sont pas réjouissants.